Maxime Maury, Economica.
Avec Lavergne.
Bonjour. Dire la vérité.
Dire la vérité sur l'économie.
Et sur la pandémie.
Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Économie, nouvelle édition d'Economica, Maxime Maury, Jacques Lavergne. Vous l'avez entendu, nous vous retrouvons avec plaisir. Nous allons essayer d'analyser un peu la situation économique et toutes ces données qui tombent de droite, de gauche, essayer de nous y retrouver pour avoir une approche à peu près saine de tous ces éléments. Alors, commençons par nos traditionnelles citations. Alors là, je vais vous demander, Maxime, qui a prononcé cette phrase dont la puissance et la pertinence ne vous échapperont pas. Je cite, « 2021 sera une année de reprise. Toutefois, nous ne sommes pas à l'abri de risques inconnus. » Quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose.
Et c'est tout à fait ce que je vais vous dire dans un instant. Non, je ne sais pas quel est l'auteur.
Voilà, c'est Christine Lagarde, la présidente de la BCE.
Ah oui, très très bien, vraiment. Alors, moi aussi, c'est par l'humour que je vais traiter le principal sujet du jour, qui sont les prévisions économiques. La seule fonction de la prévision économique est de rendre l'astrologie respectable. Ça, et c'est signé de John Kenneth Galbraith.
Ah ben oui,
c'est voilà. Il y a aussi un économiste, mais je ne l'ai pas retrouvé, qui a dit les économistes se trompent tout le temps dans leurs prévisions, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir.
L'avenir, oui, c'est une vieille formule, mais ô combien vrai, ô combien vrai. Donc vous l'avez compris, nous allons revenir sur la situation sanitaire et la situation de l'économie française avec quelques comparaisons internationales. Nous parlerons de ce que valent aujourd'hui les prévisions économiques, des perspectives pour 2021 compte tenu de cette incertitude sanitaire. Nous parlerons peut-être de prévalence de l'incertitude, nous parlerons du plan de relance du président Biden. Voilà, c'est le menu d'aujourd'hui, c'est Economica et c'est parti. Alors, quelques brèves pour démarrer notre émission. Eh bien, tiens, la première, un chiffre, 5,9 milliards d'euros, c'est ce que nous avons dépensé, la France a dépensé en 2020, pour acheter à la Chine les montagnes de masques qui nous manquaient. Donc, c'est un chiffre considérable, quasiment 6 milliards d'euros. C'est plus de la moitié du montant total des importations de produits médicaux liés à la crise sanitaire. C'est le dixième du déficit commercial de l'an dernier. C'est le coût du porte-avions qui va succéder à Charles de Gaulle. C'est plus de la moitié de la ville de Paris, etc. etc. Comparaison n'est pas raison, mais tout de même 5,9 milliards d'euros que nous avons donnés à la Chine pour récupérer des masques, sachant qu'avant on en avait, mais qu'on les a très opportunément détruits. Autre brève.
En parenthèse, je ne veux pas réagir longuement, mais jamais le Parlement n'a tiré au clair la question du démantèlement de nos stocks de masques en 2013.
Il semblerait
une enquête avait été lancée, à ma connaissance.
Il y a eu une commission d'enquête, et puis…
Oui, du Sénat.
Voilà, du Sénat, et on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Pourtant, on ne peut pas soupçonner le Sénat de complaisance à l'égard du président de la République. Mais bon, pour l'instant, apparemment, l'étouffoir a été mis là-dessus. Alors, autre chiffre, 750 milliards, gigantesque plan de relance européen lancé en juillet, qui doit se mettre en place, mais qui a quand même un peu de mal, puisqu'il a fallu 5 mois de négociations pour finalement l'adopter en décembre. Alors, après, il y a une procédure extrêmement sophistiquée, trop certainement. Chaque pays doit expliquer à Bruxelles, en principe, d'ici la fin avril, comment il va utiliser les fonds. Nous allons percevoir 100 milliards. La Commission va ensuite avaliser les 27 plans individuels pour s'assurer que l'argent ne sera pas gaspillé. Puis chaque plan sera discuté en Conseil européen, donc ce Conseil qui réunit président et premier ministre des 27 pays de l'Union. Et il restera enfin à chacun des 27 parlements concernés à adopter les plans qui auront été examinés un peu par toute l'Europe. Alors, si tout va bien, la première tranche, dont nos 100 milliards, pourrait être débloquée avant la fin de l'année. Espérons qu'il n'y aura pas de retard sur ce point, Maxime.
Mais c'est terrifiant. Ça veut dire qu'il aura fallu 1 an et demi pour arriver à concrétiser. Eh bien, moi qui suis un Européen convaincu, je suis obligé de reconnaître que l'Europe ne fonctionne pas. Et on ne va pas traiter le sujet aujourd'hui, mais il faudrait en tirer des conclusions. Et pour moi, c'est la création d'une fédération européenne. Bon, j'arrête là.
Dernière brève, on évoquait la semaine dernière la grande pauvreté, pour pas dire le grand désert de la recherche médicale française. Pasteur a jeté l'éponge, le groupe Sanofi n'est pas du tout performant, et c'est un peu normal, puisqu'il n'a rien réussi sur le vaccin du Covid. Alors pourquoi n'a-t-il rien réussi? Bien, on peut peut-être trouver l'explication dans ce qu'il a sabré depuis des années dans ses effectifs de recherche. Il a sabré de 45% les effectifs. Il s'apprête à supprimer 364 postes de chercheurs supplémentaires. N'oublions pas qu'il a touché quand même 1,5 milliard, 1 milliard et demi de crédits d'impôt recherche en 10 ans de l'État français. Et Sanofi vient de nous faire un très beau résultat, bénéfice de 12 milliards d'euros, 340% de mieux que l'an dernier. Et il va distribuer un dividende record de 4 milliards d'euros à ses actionnaires. Donc là, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans ce monde à la fois financier et de la recherche médicale.
Juste une réaction, au-delà de Sanofi, on peut observer que les meilleurs chercheurs français s'en vont à l'étranger. Un seul exemple, la dame qui va probablement avoir le prix Nobel et qui a découvert le vaccin de Pfizer, elle a cherché à s'établir à Montpellier et puis elle a dit non, finalement, la France, c'est fait pour les vacances, je pars aux États-Unis. Vous savez que le président de Moderna aussi est un Français. Bon, les trois brèves que vous venez de délivrer illustrent malheureusement ce que je vais dire en introduction, c'est que cette crise mondiale illustre malheureusement le déclassement de la France et de la zone euro.
Tout à fait. Alors, on va commencer, on va rentrer
Oui.
directement dans notre petit point. Vous savez que le 12 janvier, le ministre de l'économie a dit le plus dur est devant nous, donc Bruno Le Maire, récession historique de 9% en 2020. Notre ministre, que je l'évoquais à l'instant, a plaidé pour un report d'un an du remboursement par les entreprises des prêts garantis par
Oui.
l'État, ce qu'on appelle les fameux PGE. Tout cela, tous ces dispositifs d'urgence en 2020 ont entraîné une hausse spectaculaire de la dépense publique. Le déficit de l'État, qui ne comprend, précisons-le, ni les dépenses de protection sociale, ni celles des collectivités locales, va s'établir à 178 milliards, 178 milliards contre les 93 initialement prévus. C'est tout à fait inédit. Et pour le mois de janvier, la Banque de France, mais vous le savez ô combien, Maxime, table sur une perte d'activité de 7%.
Bon, à l'heure où nous parlons, l'économie française évolue à 5% au-dessous du niveau de 2019. Nous étions tombés à 30% lors du premier confinement. Lors du deuxième, nous sommes tombés à 8% seulement. Et actuellement, nous sommes à 5%. L'INSEE a publié le chiffre de 2020. C'est une estimation provisoire de -0,83%, -8,3%. Alors, je vais vous dire quelque chose que personne ne sait, à part les polytechniciens de l'INSEE, c'est que l'INSEE dispose de 4 révisions et le chiffre définitif ne sera connu qu'en 2023. Nous aurons à la mi-2022, après l'élection présidentielle, un résultat semi-définitif et le résultat définitif ne sera connu qu'en 2023. Alors pourquoi je dis ça? C'est pas pour faire le savant, c'est que si vous réfléchissez par analogie avec ce qui s'est produit lors de la première récession en 2008, en 2007, alors que la crise des subprimes était enclenchée, les prévisions pour 2008 étaient des prévisions de croissance. Et en 2009, quand nous avons eu les premiers chiffres de 2008, c'était -0,5%. Et puis après, au fur et à mesure qu'on a avancé dans le temps, ça a été -1, -2, -3. Donc, attention à cette estimation de l'INSEE, -8,4%, il est possible qu'elle soit très nettement révisée ultérieurement. Alors, quelques données pour illustrer ce que je disais avec tristesse. Bon, d'abord, la pandémie. Il y a un institut australien qui s'appelle, le nom m'échappe à l'instant, il s'appelle le... Pardonnez-moi, enfin, je me retrouve plus.
Un institut australien, mais, on ne le connaît
oui,
pas.
Lowy Institute d'Australie, qui a fait un classement sur les performances de maîtrise de la pandémie sur 6 critères et sur une durée de 4 mois. Et la France a été classée au 73e rang sur 90. D'ailleurs, ce n'est pas la France en particulier, c'est la zone euro qui est mal classée. L'Asie est en tête, le premier pays étant la Nouvelle-Zélande, et nous sommes dans une position qui n'est pas bonne. Prenons un autre chiffre pour parler des prévisions économiques, mais la crise sanitaire est évidemment le driver, l'inducteur de tout le reste. La vaccination. À la fin janvier, les Israéliens avaient vacciné plus de la moitié de leur population. La Grande-Bretagne avait vacciné 13% de sa population, les États-Unis avaient vacciné 9%, et nous, l'Union européenne, nous avions vacciné 2%, la France étant dans la moyenne de l'Union européenne. Donc, vous voyez que nous sommes déclassés sur le plan sanitaire, et malheureusement, nous sommes déclassés sur le plan économique aussi, puisque... au mois de janvier, le Fonds monétaire international vient de publier de nouvelles prévisions économiques. Ils ont révisé en hausse les prévisions pour le monde entier, mais ils ont révisé en baisse les prévisions pour la zone euro. Sur la base d'une récession qui aura été le double dans la zone euro par rapport aux États-Unis, moins 7 contre moins 3,5, alors que l'Asie, elle, reste en croissance, maintenant, le Fonds monétaire international, pour 2021, nous dit monde entier 5,5, zone euro 4,2, économie émergente 6,3, États-Unis 5,1. Et il a rehaussé le monde entier en abaissant la zone euro. Donc, voilà pour planter le décor. Finalement, je vais revenir sur les prévisions de la France, mais... Pour résumer cette introduction qui est un peu malheureuse, j'espère qu'elle ne l'est pas intellectuellement, l'Asie a vaincu la pandémie. Savez-vous, par exemple, qu'à Taïwan, le nombre de morts, c'est 7 morts du coronavirus sur 23 millions. Et en Corée du Sud, le nombre de morts, c'est moins de 1500 sur 51 millions. On pourrait généraliser, et d'ailleurs la Chine n'est pas dans le classement de l'Institut australien que j'ai cité, parce que la Chine est une dictature. Mais l'Asie a vaincu la pandémie. En Europe, nous sommes vraiment à la traîne. Et les États-Unis, qui ont à peine un peu plus de morts que nous par habitant, maintenant ont l'ambition de vacciner, le président Biden a dit, 100 millions de personnes en 100 jours. Et nous avons une récession deux fois plus forte qu'aux États-Unis. Donc, voilà l'introduction que je voulais faire avant de vous dire quelques mots sur les prévisions françaises. Mon introduction a été un peu longue. Est-ce que vous voulez réagir?
Nous avons déjà échangé là-dessus. Je partage le discours, donc il n'est pas besoin d'être redondant. Je vous laisse poursuivre.
D'accord. Alors, je n'avais pas en tête la phrase de Madame Lagarde que vous avez citée, et j'y souscris tout à fait. Nous avons des prévisions qui sont crédibles, mais elles sont entachées d'une très forte incertitude. Alors, disons quelles sont ces prévisions. Versus moins 8,3 en 2020, nous avons en 2021 un panel de prévisions qui va de 4% à 7%. 4% c'est le Crédit Agricole, 7% c'est l'Office français des conjonctures économiques, et entre les deux, nous avons la Banque de France à 5% et nous avons l'INSEE, c'est-à-dire le gouvernement, à 6%. Alors, vous voyez déjà que ça ne rattrape pas le trou de 2020, moins 8,3, et donc nous ne retrouverons pas dans le meilleur des cas, avant la fin 2022, le niveau de 2019. Oui.
Pardon, Maxime, juste une précision. Vous dites ça ne rattrape pas le trou. Le gouvernement avait dit en 2020 que nous terminerions sur 11% de récession. Donc, on est à 8,3, 8,4 à peu près. Les chiffres du troisième trimestre ont fait un rebond considérable, hein,
plus de 1,2
du PIB. Personne ne s'y attendait. Donc, finalement, on avait des prévisions pessimistes. C'est, si vous me, comme diraient les enfants, c'est moins pire. Donc, les prévisions ont été un peu dépassées. Le quatrième trimestre a été bien meilleur que celui qu'on pensait. Est-ce que ça n'a pas pour effet de nous procurer ce que les économistes appelleraient un acquis de croissance ?
Alors, oui, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, les vrais résultats, vous ne les connaîtrez qu'en 2023. Et il y aura 4 révisions successives. Donc, le moins 8,3, pour dire très franchement ce que je pense, je ne sais pas si c'est un chiffre qui se confirmera. Voilà. Et je vous ai donné l'exemple de l'année de 2008, où plus on a avancé dans le temps, plus la révision s'est faite à la baisse. Donc, ma réponse, c'est le scepticisme. Mais c'est un scepticisme fondé sur l'expérience. Bon. Donc, pour 2021, nous avons… Mais vous avez raison de dire que l'économie a fortement rebondi au troisième trimestre. Nous avons donc une fourchette qui va de 4 à 7, versus moins 8,3 en 2020. Et en 2022, nous avons une fourchette qui va de 2 à 4, ou de 2 à 5, la Banque de France étant à 5 et Natixis étant à 2. Et donc, tous ces instituts de conjoncture nous promettent que nous retrouverons au second semestre 2022 les niveaux de 2019. Bon, personnellement, et ça sera ma conclusion dans un instant, je pense que ça sera plutôt en 2023, et parce que j'adhère complètement à la phrase de Mme Lagarde tout à l'heure qui dit que ces prévisions sont entachées de grandes incertitudes. Alors, il y a trois incertitudes. Il y a trois incertitudes. La première, c'est évidemment l'incertitude sanitaire. Nous avons vu cette semaine que le variant anglais, qu'il faudrait appeler plutôt le mutant, puisque c'est un virus qui remplace un autre, progresse à 50% par semaine. D'ailleurs, le président Macron connaissait ce chiffre, hein, 50% par semaine. Nous étions à 14% la semaine dernière. Nous sommes maintenant à 25%, et au début mars, ça sera du 100%. Bon, nous savons que derrière le mutant anglais, il y en a deux autres qui sont plus méchants, le sud-africain et le brésilien, parce que cela résiste au vaccin. Et donc, nous avons une course de vitesse entre la vaccination et le virus, d'un côté, et de l'autre côté, nous avons une autre course de vitesse entre les vaccins et les mutants. Parce que il est probable que les vaccins devront se réadapter aux mutants, pas aux mutants anglais. Hein. Le mutant anglais, lui, cède aux vaccins, mais aux autres mutants. Donc, vous voyez que l'horizon sanitaire est reporté probablement à la fin de l'année et il est même probable que cette maladie restera une maladie endémique pendant probablement longtemps. Ce qui d'ailleurs veut dire que la stratégie « vivre avec le virus » est une stratégie qui n'a aucun sens. Parce que si on vit avec le virus, on le laisse muter. Donc ça, c'est la première incertitude. La deuxième incertitude, c'est que l'expérience montre que les prévisions économiques sont exactes, généralement exactes, quand le cycle est régulier. Mais quand le cycle s'inverse brutalement, les prévisions deviennent beaucoup plus aléatoires. Et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer en prenant l'exemple de l'année 2008. Et la troisième raison, c'est que, je rejoins encore une fois Mme Lagarde, nous sommes dans une situation inédite. Nous n'avons jamais vu dans l'histoire de l'humanité une récession aussi importante s'accompagnant d'une chute des défaillances. En général, une récession, c'est une augmentation des défaillances. Et une chute du crédit. Là, c'est moins 8 pour l'activité, c'est moins 30 pour les défaillances et c'est plus 13 pour le crédit. Et la Banque de France nous dit plus 50% pour les crédits de trésorerie en Occitanie. Donc, nous savons que cela ne va pas durer, nous savons qu'il va y avoir un très fort rebond, plus 50% vraisemblablement des faillites à l'horizon 2022, c'est ce que nous disent les assureurs crédits. Et donc, nous en déduisons qu'il y aura un choc sur le système financier. Et j'invite nos auditeurs à écouter le podcast de la précédente émission où j'ai montré que ce choc devrait être maîtrisé. Mais je pense que c'est le petit sous-entendu de Mme Lagarde dans la phrase que vous avez citée tout à l'heure. C'est qu'il y a dans la prévision des choses que nous ne pouvons absolument pas modéliser. Et pour conclure, risque de choc financier et risque d'une sortie de crise sanitaire plus lente que prévu. Voilà le panorama. Je vous en prie.
Oui, je voulais vous dire, on n'a pas annulé les faillites ou les chômeurs, on les a simplement différés grâce au.
On les a différés.
Au PEG, certainement.
Donc, on les a différés. Alors,
je veux dire que les Français comprennent cela parce qu'ils l'ont parfaitement bien perçu. Notre pays est dans une impasse, ce qui explique peut-être quand même un certain désespoir de nos concitoyens qui ne voient pas véritablement d'issue à la crise. Et alors, comment peut-on surmonter pareille crise si on n'arrive pas à restaurer la confiance? Et je voulais juste indiquer que la sortie de crise, si elle arrive, va s'accompagner de ce qu'on pourrait appeler une brutalisation du corps social. Nous savons que les gens deviendront de plus en plus pauvres, nous savons que dans les crises, les gros maigrissent, mais surtout les maigres meurent. Et est-ce que nous ne risquons pas, et alors là on passe de l'économie à la politique, mais les deux sont consubstantiellement liés, est-ce que nous ne risquons pas un scénario de violence économique, sociale, politique, parce que n'oublions pas que nous avons des échéances électorales. La première, si tout va bien, ce sera en juin, les élections régionales et départementales, et après, nous avons l'élection présidentielle. Et j'imagine que tous ces éléments qui vont s'entrechoquer vont dans un cocktail très délétère, vont certainement influencer les choix politiques des Français.
Bien sûr, nous sommes dans une très grande incertitude. Il y aura une date à surveiller très attentivement. C'est pas tellement mai 2022, c'est mars 2022. Pourquoi ? Parce que c'est une double date importante. C'est la date à laquelle la BCE a prévu de retirer son plan qu'on appelle PEP, c'est-à-dire Pandemic Emergency Purchasing Program, c'est-à-dire ce plan de rachat de titres. Et elle ne décidera pas en fonction de la France toute seule, évidemment. Hein, nous sommes un des 19 pays. Et en même temps, cette date de mars 2022, c'est la date d'échéance du moratoire des prêts garantis par l'État, dont la Banque de France nous dit en Occitanie qu'il a été le principal facteur du soutien aux entreprises. Donc, tout a été différé, vous l'avez dit. Le choc financier est devant nous, et c'est peut-être ça que Mme Lagarde suggère, sans le dire, évidemment. Et donc, ma conclusion, j'adhère à ce que vous avez dit, ce qui est devant nous est largement imprévisible. Ma conclusion personnelle, c'est que si tout se passe bien, nous allons sortir de la crise sanitaire à la fin de l'année, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que la maladie disparaîtra complètement. Nous pourrions avoir un choc financier au second semestre 2021 ou au premier semestre 2022. Ce choc, nous devrions l'encaisser et l'amortir. Les bars, hôtels, restaurants rouvriront probablement au mois de mai. Et finalement, ma conclusion, c'est que la France retrouvera en 2023 son niveau d'activité de 2019. Mais je ne crois pas beaucoup à ce qu'elle le retrouve en 2022. Voilà, ma conclusion. Donc, je considère que ces prévisions sont crédibles. Je n'ai pas de mépris pour ces prévisions, loin de là, mais elles sont entachées, et vous l'avez dit également, d'une très grande incertitude.
Je vous propose de consacrer les minutes qui suivent à la première pause musicale de votre choix. Alors, qu'est-ce que vous nous avez concocté?
Alors, c'est une illustration de la crise sanitaire. C'est une magnifique chanson de Frank Sinatra de 1966. Strangers in the Night, nous sommes dans la nuit de la crise sanitaire et de l'incertitude, et dans cette nuit, il y a deux étrangers qui se sentent étrangers dans la nuit et qui s'aiment. D'ailleurs, l'amour, ce n'est pas simplement physique, ce sont des clins d'œil, ce sont des regards, c'est une complicité, Et
vous savez
ça m'amène à dire que depuis le début de la crise sanitaire, il y a eu beaucoup d'échanges. Et ça, c'est peut-être le bon côté. Ce matin, par exemple, sur notre émission Résilience, nous avons eu un échange avec un maire breton passionnant. Donc, vous voyez, étrangers dans la nuit, nous nous rapprochons peut-être les uns des autres.
Eh bien, espérons-le qu'il y ait au moins cet aspect positif. Nous écoutons Frank Sinatra.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Doo-dee-doo-be-doo.
Voilà, c'était Strangers in the Night, le choix de Maxime Maury par Frank Sinatra. Revenons, Maxime, à des choses moins légères et revenons à notre économie mondiale. Alors, vous souhaitiez, je sais, aborder des sujets. Vous m'avez parlé de prévalence de l'incertitude.
Oui.
Alors, qu'est-ce que vous entendez par là, si je...
Ah ben, je viens d'expliquer ça pendant un quart d'heure.
Oui, donc... non, mais vous n'avez pas à prononcer ces mots de prévalence de l'incertitude. Cette incertitude, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui... Je parlais tout à l'heure de restauration de la confiance. Comment peut-on avoir de la confiance absolument nécessaire pour relancer la machine si nous restons dans l'incertitude? Autrement dit, comment peut-on se débarrasser de l'incertitude?
Oui, votre question me permet de dire ce que je n'ai pas dit tout à l'heure. Donc,
ah, voyez.
Elle est très utile. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que la croissance va s'accélérer? Eh bien, fondamentalement, quand on regarde les scénarios, parce que je n'ai pas l'air comme ça, mais j'ai étudié ce petit rapport là de 40 pages avant de venir vous parler, c'est la baisse de l'épargne. Hein, puisqu'en fait, nous avons 200 milliards d'euros d'épargne supplémentaire, vous connaissez ce chiffre, et l'hypothèse des prévisionnistes, c'est que cette épargne va diminuer, et va donner lieu à de la consommation, évidemment, mais aussi à de l'investissement. Et je vous disais la dernière fois, à un renforcement du bilan des entreprises et des fonds propres des entreprises. Et là, il y a le lien avec votre question. C'est que si nos concitoyens ont le sentiment qu'on ne va pas sortir de la crise, et s'ils ont le sentiment aussi que les impôts vont augmenter, ce qui ne manquera pas de se produire le moment venu, ils risquent de conserver cette épargne. Donc, pour que ces prévisions puissent se réaliser, il faut qu'il y ait ce que John Maynard Keynes appelait les comportements animaux. Comportements animaux, c'est on se lâche, on va consommer, on va investir, l'instinct de survie se libère. Alors, il faut espérer que c'est ce qui va se produire au début de 2022.
Il s'est quand même libéré parce qu'on évoquait tout à l'heure un excellent trimestre en 2020. C'est grâce justement à cette relance par la consommation que ça s'est produit.
Oui, c'est-à-dire que dans la mesure où ce n'est pas une véritable crise économique, c'est une crise sanitaire au départ, le déconfinement a entraîné un rebond très important. Mais le point clé, ça sera cette épargne. Il va falloir brancher des tuyaux vers le haut du bilan des entreprises pour amortir le retrait de l'État. Vous savez que nos entreprises sont surendettées, donc consolider leur bilan et que nos concitoyens aient envie de consommer. Alors moi, j'ajouterais que s'il devait y avoir des augmentations d'impôts, celles-ci se fassent dans le cadre d'une fédération européenne qui soit orientée vers l'écologie et la réduction des inégalités.
Est-ce que vous pensez, Maxime, que après cette pandémie, les choses ne seront plus les mêmes, et notamment en économie, et qu'il y aura une autre économie que celle que nous avons connue? Alors, en disant ça, je pense aux travaux de Robert Boyer sur l'économie anthropogénétique, sur Pierre Vels qui a parlé de l'économie humano-centrée, de Jacques Attali sur l'économie de la vie. Donc ça voudrait dire que nous sommes à la veille d'une révolution industrielle qui touchera à peu près tous les secteurs. Est-ce que l'économie de la vie demain sera peut-être une perspective prometteuse?
Alors je crois que oui, parce que la crise sanitaire, qui en fait est une conséquence de la crise environnementale, nous a fait prendre conscience de la nécessité de rétablir notre souveraineté industrielle, de combattre les émissions de carbone, de miser sur les circuits courts et sur la résilience. Donc, je le crois, et puis en même temps, nous avons expérimenté ensemble, d'ailleurs, ce matin, cet après-midi, la notion de travail à distance. Simplement, et ça sera l'objet d'un éditorial que je vais réserver prochainement à mes amis du Centre d'études prospectives stratégiques, tout ça va coûter plus cher. Tout ça va coûter plus cher. C'est-à-dire que oui, nous avons pris conscience de la nécessité d'une nouvelle économie, mais cette nouvelle économie va coûter beaucoup plus cher. Sans parler de la taxe carbone qui, inévitablement, et je le souhaite de tout cœur, avec Jean Tirole et les prix Nobel qui ont lancé un appel, renchérira les prix et nous empêchera d'avoir le bénéfice de la mondialisation sur les prix tels que nous l'avons eu jusqu'à présent.
Alors, qu'est-ce que vous
répondez ? Donc, la réponse est oui, mais ça va avoir des conséquences.
Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui vous dirait bon, les taux de croissance les plus pessimistes sont à peu près à 3,6%, on s'endette à moins 0,5%, donc on a un service et un volume de la dette qui rapporté au PIB baisse. Donc, ce n'est pas si terrible que ça.
Alors, moi, je suis à fond pour une accélération de l'investissement public vers la santé, vers l'éducation et vers la transition énergétique, puisqu'effectivement, comme vous le rappelez, les taux d'intérêt nous permettent d'investir. Mais je suis tout à fait opposé à une annulation de la dette. Ça me paraît une ineptie. On dira peut-être pourquoi tout à l'heure. S'endetter pour investir, ce n'est pas la même chose que s'endetter pour boucher des trous à la fin du mois. Je crois qu'on est d'accord là-dessus.
Oui, on est d'accord là-dessus. Encore faudrait-il qu'il y ait des plans d'investissement cohérents, qu'il y ait… on ne nous a rien proposé. Il paraît qu'il y a un commissaire au plan, le maire de Pau. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas quel est son plan, je ne sais pas s'il a travaillé, mais pour l'instant, tous ces investissements, on ne sait pas dans quel secteur ils vont se porter. Est-ce que vous pensez que c'est la croissance de demain qui va payer cette dette? Parce que c'est toujours la croissance qui paye la dette. On n'a pas nous payé, ni vous, ni moi, puisque à peu près nous sommes dans exactement la même tranche d'âge. On n'a pas payé les dettes de la guerre de 40. La croissance oui. Des 30 glorieuses sont passées par là. Est-ce que demain, la croissance, y aura-t-il une croissance? Est-ce que le monde et la déflation énergétique que nous connaissons permettra qu'il y ait croissance ? Question un peu, peu particulière. On sait que s'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'activité. Il y a moins d'énergie aujourd'hui, notamment le pétrole qui commence à se faire rare avant que cette déplétion ne s'accélère plus rapidement. Donc, s'il n'y a pas de croissance, qui va payer la dette ?
Alors, si nous voulons stabiliser le climat, nous devrons nous contenter d'une croissance très faible. Et je pense que ceux qui sautent comme des cabris sur leur chaise en disant la croissance, nous mentent. Ou alors, ils veulent que nous continuions à nous réchauffer. Je note par exemple qu'un économiste tout à fait classique comme Patrick Artus nous dit que le prix de l'énergie va tripler. Pas tout de suite, évidemment. Il va tripler sur le long terme avec le développement des renouvelables. Donc, je pense que… Alors, par contre, je ne suis pas capable de quantifier de manière exacte l'impact sur la croissance. Mais la croissance, non, ce n'est pas la solution. Je suis désolé d'être désagréable. Alors, je rappelle simplement qu'aujourd'hui, on nous paye pour emprunter. Donc, si nous continuons à avoir des taux négatifs, et la bonne fée, Madame Lagarde, devrait y contribuer, continuer à y contribuer, et le bon mage François Villeroy, qui est son équivalent en France, dans la mesure où on nous paie pour endetter, je vous répondrai que la dette n'est pas un problème. Mais encore une fois, à condition que ce soit pour investir.
Oui.
Alors, je vais m'autocritiquer, puis après, je le ferai sous la forme d'un éditorial qui est déjà rédigé, d'ailleurs. C'est que ce que je dis là n'est vrai que si l'inflation ne repart pas. Parce que si l'inflation repart, les taux d'intérêt remonteront.
Oui, alors il y a quand même un changement de paradigme parce qu'on assiste au grand retour de la puissance publique, de la mutualisation des risques et des pertes. Ce n'était pas du tout la politique et l'ère dominant. Et on a trouvé notamment des défenseurs inattendus sur ces questions qui sont un peu surprenants compte tenu de leur position sur l'échiquier politique. La donne a quand même beaucoup évolué.
Oui, oui.
Est-ce que c'est une tendance que vous pensez pouvoir se poursuivre ? Parce que là, forcément…
Mais... Pour moi, depuis mars 2019, date à laquelle j'ai commencé avec vous cette émission, mon point de vue n'a pas changé. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est quelle est la situation de la zone euro par rapport, et nous allons parler de plus en plus d'économie internationale, et quelle est la situation de la France dans la zone euro ? Et quand je dis la France, l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Voilà ma réponse. C'est-à-dire que si nous restons dans la tendance de la zone euro, et malheureusement j'ai des données qui montrent que les pays du Sud se sont quand même plutôt éloignés des pays du Nord, alors la réponse à ce que vous dites, c'est que nous risquons de nous trouver en contradiction avec nos partenaires. Et que donc, nous risquions de nous trouver condamnés à des révisions déchirantes. Encore une fois, je pense, comme Bruno Le Maire d'ailleurs, qu'il faudrait faire une réforme des retraites, sans attendre, parce que nous ne pouvons pas être le seul pays au monde. Vous voyez, donc, la limite de ce que vous dites, ce changement de paradigme, la limite, c'est de rester en phase avec la situation financière des pays du nord de l'Europe. Qui, par parenthèse, je pense à l'Allemagne, ont lancé des plans de relance plus puissants que le nôtre parce qu'ils avaient des marges financières que nous n'avions pas. Vous voyez, donc c'est toujours l'économie comparée qui est finalement la règle du jeu, et surtout quand on partage la même monnaie.
Bien, je vous propose…
Est-ce que ma réponse est claire ou est-ce que…
La réponse est claire, effectivement, la réponse est claire. Alors moi, je vous propose justement, parler d'économie comparée, d'aller regarder un peu outre-Atlantique ce qui se passe chez nos amis américains qui ont connu bien des vicissitudes et qui essayent de redémarrer. Vous savez que les chiffres du PIB américain qui ont été publiés récemment, le 28 janvier, montre que l'économie a continué de croître au quatrième trimestre 2020 sur un rythme annualisé de 4% par rapport au trimestre précédent. Et ce chiffre intervient après une croissance mécaniquement très élevée au troisième trimestre 2020, même très très élevée puisqu'elle est de 33,4%. Alors c'est un peu la conséquence de l'effondrement de l'activité du deuxième trimestre. La reprise du deuxième semestre 2020 a été suffisamment forte, et ça c'est typique aux États-Unis, pour que certains considèrent que si une nouvelle récession devait arriver en 2021, ben, ce serait une nouvelle phase. Finalement, ils auraient absorbé la première, ils seraient dans une deuxième phase. Ce qui fait que si la récession du Covid était aujourd'hui avérée, on aurait alors une récession courte de trimestre, mais d'une amplitude extrêmement forte, ce qui serait quand même la récession la plus sévère qu'auraient connue les États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, est-ce qu'on peut considérer que l'économie américaine est sortie d'affaires ? Alors, certains se sont penchés dessus, et je pense notamment à Laurent Ferrara, qui est professeur d'économie internationale dans un établissement français bien connu, et qui a fait quelques études là-dessus, et qui note notamment que l'emploi aux États-Unis, hors les chiffres dans le secteur non agricole, montre que le nombre d'employés est passé de 152,5 millions au pic de la réception de la récession en février 2020 à 130,2 millions en avril. Donc ça veut dire que malgré le rebond qui s'en est suivi, le nombre d'employés plafonne à peu près au-dessus de 142 millions depuis le mois d'octobre, c'est-à-dire ceux qui ont un travail, et 10 millions d'Américains ont perdu leur emploi pendant cette crise et depuis ne l'ont pas retrouvé. Donc dans ce contexte cyclique, mais un peu dangereux, un plan de soutien à l'économie américaine a été voté par le Congrès le 21 décembre 2020. Il y avait encore l'ancien président de sinistre mémoire. Un plan de 900 milliards de dollars, acté par la Maison-Blanche le 27 décembre. Et aujourd'hui, nouveau débat, Joe Biden a présenté à mi-janvier un nouveau plan qui, lui, se chiffre à, à 1900 milliards de dollars.
Oui, c'est ça. J'avais en tête 2000.
Énorme, hein, ce qui porterait l'amplitude du choc budgétaire à environ 13% du PIB. Donc, c'est comme il semble évident, et le professeur Ferrara que je citais tout à l'heure nous dit bien que l'économie américaine a encore besoin de ce soutien budgétaire. Par contre, se pose une question, c'est que c'est un plan énorme qui fait débat parmi les économistes américains et qui se disent, mais est-ce qu'il n'y aurait pas là des risques associés à un plan d'une telle ampleur ? Et le danger principal mis en avant par certains économistes, c'est que effectivement cette injection massive entraîne une surchauffe de l'économie, surtout dans les conditions actuelles. Il y a un surcroît d'épargne des ménages élevé, ils estiment ça à 1 600 milliards de dollars, un déficit public qui est croissant, qui approche les 15% du PIB 2020. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de surchauffe ? Et si, quand on dit surchauffe, ça veut dire que ben, ce serait l'inflation. Et c'est, je vous pose la question, Maxime, parce que s'il y a inflation en spirale haussière, qu'est-ce qui va se passer ? La Fed, la Réserve fédérale américaine, va resserrer sa politique monétaire et de facto, on va se retrouver avec un nouveau ralentissement économique.
Alors cette question est une question générique qui concernera bientôt le monde entier. Alors la réponse est oui, il y a déjà des signaux très nets, je vais vous en donner 3 ou 4. Bon, la bourse Nasdaq qui est à des niveaux totalement délirants, puisqu'en fait l'indice est nettement au-dessus du niveau de janvier 2020 et avec un rapport avec les profits attendus qui est 2 fois supérieur à la moyenne de longue période. Deuxièmement, à l'heure où nous parlons, là j'ai regardé les chiffres avant de venir ce matin, le taux américain à long terme est 170 points de base au-dessus du taux allemand. Donc les taux américains à long terme sont repartis à la hausse, loin au-dessus des taux européens. Troisièmement, c'est un peu technique, ce qu'on appelle l'anticipation d'inflation, que l'on mesure par, excusez-moi du jargon, le break-even d'inflation, c'est-à-dire l'écart entre la rémunération sur les titres indexés et les titres non indexés. Cet indicateur s'est envolé ces dernières semaines, et il est actuellement à 2,5. Et avant que M. Biden ne fût élu, son prédécesseur, dont j'ai oublié le nom, avait relancé une économie au plein emploi qui, pour la première fois depuis 30 ans, 30 ou 40 ans, fait que les salaires ont augmenté. Vous ne l'avez pas signalé dans votre exposé, mais il y a Il y a aussi la volonté du président Biden de revaloriser les bas salaires. Donc, là aussi, c'est un facteur d'inflation qui est avéré. Donc, oui, il y a des risques d'inflation. Et oui, vous avez raison de signaler que la réserve fédérale, qui est indépendante, pourrait remonter ses taux d'intérêt. Et il faut poser immédiatement la question suivante. Question pour Madame Lagarde, si vous l'invitez un jour dans notre émission. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passerait à la BCE ?
Est-ce que vous ne pensez pas que cette injection massive dans l'économie américaine n'est pas une bonne chose pour nous ? Parce que ça va quand même relancer quelque part l'économie mondiale, non ?
Oui, alors moi je ne vais pas critiquer le plan du président Biden parce qu'il ouvre enfin la porte à la transition énergétique. Après que son prédécesseur eût dit que le réchauffement climatique était un canular, hein, je cite le prédécesseur, j'ai tort d'ailleurs parce qu'il faut l'oublier, donc je ne vais pas du tout critiquer le plan de 1900 milliards, mais j'observe que, en fait, si on rapporte ce plan au PIB et qu'on compare avec l'Europe et les plans nationaux en Europe, ils ont une politique de soutien de l'économie qui est plus forte que la nôtre. Alors que, en dépit de ce que vous avez dit sur l'emploi, le taux de chômage est nettement moins élevé que chez nous.
Bien. Une deuxième pause musicale. Alors, celle-là, je l'ai choisie et j'ai choisi de vous faire entendre quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas. Tout simplement parce que c'est une jeune chanteuse que je qualifierais presque de débutante, que j'ai eu le plaisir de recevoir lundi dernier dans mon émission Cap-Cap. Elle s'appelle Perrine Hopp. Elle avait un métier, une vie, un accident de la vie l'a mise à terre. Elle a été obligée de changer de métier. Très curieusement, elle s'est orientée vers la musique pour essayer de remonter à la surface parce qu'elle était apparemment tombée très bas. Elle s'est lancée dans la musique, elle chante, elle se produit. Donc je vous redonne son nom. J'espère que nous l'entendrons bientôt sur les antennes nationales. Elle s'appelle Perrine Hopp. Et je vous propose d'écouter sa chanson « Loin » dont elle a écrit paroles et musique. Perrine Hopp.
De temps en temps, Horace, ces mots qui nous suivent à la trace. Mais j'ai l'audace de tenir ma place. Je sais qu'il faut parfois laisser son ombre derrière soi pour avancer, pour briser la glace.
Et dans mon pied, on n'entend rien. Il est temps de ranger ces morceaux déchirés au combat.
Voilà, Maxime Maurice, c'était Perrine Hoppe, mon invité de Cap Cap de l'année dernière, avec sa chanson « Loin ». Il me semble que l'heure avance à grands pas, comme toujours, on ne retient jamais, jamais la montre ni le temps. Alors nous en arrivons bien sûr à nos rubriques, nos dernières rubriques de fin d'émission. L'économie en Occitanie, est-ce que vous avez sur cette économie en Occitanie quelques chiffres à nous donner, quelques tendances? Moi, je ferai juste observer qu'on ne doit pas être si bien que ça en Occitanie, parce que nos secteurs d'excellence, qu'est-ce que c'est? Ben déjà, c'est l'aérospatiale, dont on sait combien aujourd'hui elle est diminuée. C'est la gastronomie, c'est tous les fournisseurs qui se tournent autour de la gastronomie, les agriculteurs et autres, les spectacles, les festivals, l'hôtellerie. Notre tourisme et nos grands sites que nous avons en Occitanie sont touchés. Donc, j'imagine que nous souffrons quelque peu, non, Maxime?
Oui, alors, une volée de chiffres due à la diligence de mes amis de la Banque de France qui viennent de me donner le résultat de cette enquête qui vient de paraître. C'est le bilan des entreprises en 2020 et les prévisions, leurs prévisions pour 2021. Alors, j'enchaîne directement sur ce que vous venez de dire. L'activité en 2020 s'est tenue un peu moins bien que le national parce que le chiffre d'affaires de l'aéronautique a chuté de 34%. Et à l'heure où nous parlons, nous disions que le national est à 5% du niveau de 2019, mais l'aéronautique, elle, est 32% au-dessous. Donc, l'Occitanie, forcément, est au-dessous, même si sa principale industrie régionale, qui est l'agroalimentaire, a plutôt bien tenu le coup. Alors, je vous passe le bilan 2020. J'en viens aux prévisions. Prévision de chiffre d'affaires dans l'industrie, après une chute de 16%, le chiffre d'affaires progresserait de 7%. Mais vous voyez que l'un ne compense pas l'autre, hein, moins 16 plus 7. Les services, après moins 11, ça serait plus 7. Et dans le bâtiment, après moins 7, ça serait plus 6. Le compte n'y est pas, mais ça illustre ce que je disais tout à l'heure pour le macro national. Il faudra attendre vraisemblablement 2023 pour retrouver les niveaux de 2019. Les effectifs continueraient à baisser dans l'industrie. Alors, je vous passe les chiffres, hein. Sauf si vous les voulez. Dans les services, il y aurait une très légère reprise des effectifs, et dans le bâtiment, une très légère reprise aussi, mais là encore, ça ne compense pas la baisse de l'année 2020. Et je retiens comme un point notable la chute de la rentabilité des entreprises, qui se redressera en 2021, mais le redressement ne compensera pas la chute de 2021. Voilà les principaux résultats dit très vite.
Oui, ce qui devrait nous inciter, mais comme toujours, on l'oublie trop souvent, à l'humilité. Rappelez-vous, Maxime, nos dernières émissions, il y a encore quelques mois, où on se gargarisait des bons chiffres et résultats de l'Occitanie, parce que nous étions à l'époque une région vraiment en pointe, tout à fait.
Oui, c'est fini, c'est fini.
Et aujourd'hui, nous avons du jour au lendemain, très brutalement, subi ce coup d'arrêt. C'est quand même assez dramatique pour notre région parce que nous avons des départements qui souffrent, hein, notamment dans ce qui est l'ancien Languedoc-Roussillon. Il y a quand même des départements qui sont particulièrement déshérités et qui, comme tous les déshérités, vont être encore plus affectés, impactés par la crise.
Alors, il y a deux secteurs qui se tiennent bien et qui n'ont presque pas fléchi, c'est le bâtiment et l'agroalimentaire. Mais oui, bien sûr, l'aéronautique tire la région vers le bas.
Nous échangions hier en préparant cette émission et vous me disiez, nous allons avoir beaucoup de dépôts de bilan, notamment dans les commerces, dans les restaurants, et peut-être un grand nombre d'entre eux ne reverront jamais le jour. Vous vous souvenez certainement de ça, c'est pas si vieux.
Oui. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans la note de la Banque de France, parce que là, c'est une note de synthèse, mais j'en ai une autre un peu plus longue derrière, je vous la verrai si vous voulez d'ailleurs. C'est que les graphiques sur la trésorerie montrent que la trésorerie, pour le moment, n'est pas atteinte, pratiquement pas. Et la Banque de France nous dit que les prêts de trésorerie ont augmenté de 50%. 50%, je crois même que c'est 60%. Et ça, c'est à 100% des prêts garantis par l'État. Donc, ça illustre ce que nous disions tout à l'heure, l'économie est tenue à bout de bras par l'État.
Ça veut dire que nous sommes sous perfusion, donc il y a deux solutions.
Nous sommes sous perfusion.
Soit l'État dit, et je rappelais les propos de M. le maire en liminaire de notre émission, soit l'État dit « remboursez-moi, ils ne pourront pas rembourser et la vague sera énorme », soit l'État étend les prêts, voire fait même peut-être, pourquoi pas des abandons de créances, je ne sais pas si c'est possible, auquel cas c'est l'ensemble de la communauté nationale qui va devoir rembourser.
Oui, c'est ça, mais avec une variable quand même, parce que quelquefois on me dit « vous êtes un peu pessimiste ». Non, non, je ne suis pas du tout pessimiste, je suis réaliste. Il y a une variable quand même d'ajustement, c'est l'épargne. Dans le fond, cette épargne supplémentaire, si elle vient renforcer les fonds propres des entreprises, alors c'est une affaire de tuyauterie, il va falloir brancher les bons tuyaux, comme le suggère d'ailleurs le Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre, on peut sauter par-dessus l'obstacle.
Eh bien, écoutez, croisons les doigts et espérons que ce sera le cas. Dernière rubrique, le conseil, entre guillemets, culturel, ou le conseil, c'est souvent chez nous un conseil de lecture. Moi, je voudrais vous parler d'un livre qui n'est pas nouveau, qui est paru, je crois, en 2017 ou 2018, ce qui fait qu'il ne prend pas du tout en compte la pandémie Covid, dont on sait combien elle nous impacte, on le dit assez souvent, on le répète, on l'a répété à satiété dans cette émission, et ça s'appelle « L'âge de la régression ». Alors c'est un ouvrage qui est publié par Premier Parallèle, ce sont 15 intellectuels, chercheurs, universitaires, qui sont tous de renommée internationale et qui sont issus de différents pays du monde, qui explorent les racines de la situation qui est la nôtre aujourd'hui, et eux, ils ont appelé ça la grande régression, considérant que nous vivons un tournant historique. Alors, ils notent l'ascension des partis nationalistes, Front National, la démagogie, l'ancien président américain dont on ne répétera pas le nom, le repli sur soi, c'est le Brexit, les tendances autoritaristes, Hongrie et Pologne, l'appel à la grandeur et à la pureté nationale, bien c'est M. Modi en Inde, c'est Poutine en Russie, et puis une vague générale de xénophobie et de crimes haineux, la brutalisation du discours politique, le complotisme, l'ère de la post-vérité, l'appel à l'érection de murs toujours plus nombreux, toujours plus hauts, etc. C'est-à-dire notre quotidien, dont peut-être les effets sont aujourd'hui démultipliés par ce fameux Covid. Donc c'est un livre qui est tout à fait passionnant parce que ce sont tous des gens qui savent de quoi ils parlent, qui savent manier les concepts et qui ont une vision extrêmement large. Ça s'appelle « L'âge de la régression ». Je ne vais pas vous citer les 20 auteurs, ils sont du monde entier. Il y a des Italiens, il y a des Français, il y a des Américains, il y a des Russes, il y a Bruno Latour aussi que nous évoquions ce matin, le philosophe. Donc voilà, c'est un livre absolument passionnant qui n'a pas du tout perdu son acuité d'analyse malgré le Covid, simplement il faut rajouter cette donnée qui va accélérer, à mon sens, cette régression, parce que je partage tout à fait la conclusion de ces universitaires. Et deuxième conseil de lecture, c'est la lecture du Monde, tout bêtement. Il y a actuellement, en dehors des articles que chacun connaît, il y a une passionnante enquête à épisode sur le Luxembourg, appelé le coffre-fort de l'Europe. Alors, vous savez que le Luxembourg, c'est très curieux d'ailleurs de voir combien les lois fiscales luxembourgeoises, alors que ce pays est parfaitement européen, les lois fiscales luxembourgeoises sont douces à beaucoup et combien un certain nombre de sièges sociaux de sociétés françaises, mais pas que, et même d'ailleurs de sociétés nationales où l'État est partie prenante, sont allés se domicilier au Luxembourg. Il y a là quand même, à l'époque où on est, un paradoxe absolu. Peut-être Maxime avait voulu cette série d'articles, sinon je vous engage vivement à le faire. Dernière, une annonce, vous l'avez évoqué tout à l'heure, nous avons ce matin enregistré notre dernière émission Résilience avec Daniel Cueff, maire qui fut maire de Langouette, à côté de Rennes, un maire qui a rompu quelques lances, c'est un euphémisme, avec l'État et le ministère de l'Agriculture bis, je veux parler là de la FNSEA, il s'en est largement expliqué ce matin, tout simplement parce qu'il avait pris un arrêté pour mettre sa population quelque peu à l'abri sur le plan sanitaire, et il avait eu la prétention de réglementer l'épandage des pesticides de synthèse, ce qui aujourd'hui est devenu un peu plus répandu. Donc il a été en quelque sorte, et comme il le disait lui-même ce matin, une espèce de lanceur d'alerte. Maxime, nous sommes arrivés quasiment au bout de notre propos. Voulez-vous conclure ?
Non, non, je ne me permettrai pas de conclure. Je pense que nous concluons ensemble de la même manière, d'une manière implicite. Les difficultés sont devant nous.
Voilà, ce n'est pas une conclusion très optimiste et il faudrait donner et confiance et envie de se battre à nos concitoyens, mais je ne connais pas les mots qui apaisent et qui relancent la confiance, si vous les connaissez.
Alors pour moi, dans mon intime conviction, c'est la réduction des inégalités, c'est la solidarité, comme le dit le président des États-Unis, c'est la dignité, la vérité, la science, et j'ajouterai l'Europe, parce que nous voyons bien que nous sommes frappés par un déclin stratégique et que la solution passe par l'Europe. Mais ce n'est pas l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, c'est pour moi une fédération européenne.
Bien, sur ces mots sages, merci, merci Maxime. C'était Economica, une émission de Jacques Laverne et de Maxime Maury, vous l'avez entendu. À la réalisation, Yanis Boudin a travaillé au montage de cette émission. Une émission dont vous pourrez retrouver le podcast ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie et sur l'application dédiée pour smartphone. Et pour notre part, eh bien, nous nous retrouverons dans 15 jours pour une nouvelle édition d'Economica, en espérant pouvoir peut-être vous apporter, sinon de bonnes nouvelles, du moins des notes d'espoir qui vous donneront envie de poursuivre l'effort, de combattre et de sortir de cette fichue pandémie. Belle journée à toutes et à tous. À bientôt.